Bienvenue à toutes et à tous dans la grande table d'été aux alentours de 13h25. Ce sera l'heure de la musique en direct programmée par Boris Pino, aujourd'hui électro avec Feynman. Puis nous accueillerons Amos Gitaï, cinéaste et metteur en scène. Ce sera d'ailleurs à l'homme de théâtre qu'on s'intéressera puisqu'il revient d'Avignon et que sort en DVD son spectacle « La guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres ». Mais tout de suite, cap vers la Creuse où s'est ouverte il y a une quinzaine de jours la Cité internationale de la tapisserie d'Aubusson, inaugurée en grande pompe le 10 juillet dernier par le président François Hollande en personne. Et pour en parler, Bruno Itier, qui est conservateur, Cécile Le Talec, artiste plasticienne, vous avez créé il y a quelques années à la demande de la Cité une œuvre de tapisserie. Et enfin, Jean-François Luneau, vous êtes maître de conférence à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, spécialisé dans les arts industriels, et vous faites partie du comité scientifique de la Cité. Bonjour et merci à tous les trois. Alors une question toute bête pour commencer peut-être à vous, Bruno Itier, pourquoi avoir choisi le nom de Cité plutôt que musée? Quel sens est-ce que ça avait pour vous?
Alors ça a été un choix des collectivités locales qui ont mis en place ce projet. Et ça s'est imposé très vite parce que il y avait des enjeux importants pour agrandir ce musée. Le musée avait ouvert sur la volonté d'André Chandernagor au début des années 80. Et il avait ouvert vide. Et dès les années 90, face au succès de l'établissement et l'arrivée de collections, ça débordait déjà et on parlait de l'agrandir. Et donc, quand il a été décidé à partir de 2009 de mettre en place enfin cet agrandissement et cette rénovation, il y a eu la volonté de mettre toute une autre série de fonctions. En premier lieu, une formation pour des lyciers, puisque l'École nationale d'art décoratif d'Aubusson ne formait plus de lyciers depuis les années 1990. C'était la clé. Pas de savoir-faire qui perdure s'il n'y a pas transmission. Et puis, il y avait un gros travail autour de la création contemporaine. Il y avait tout un accompagnement de la filière économique. On a au Aubusson, depuis les années 1990, un atelier de restauration du mobilier national, un énorme centre de ressources bibliothèque, et tout ça dans le même lieu. Donc, l'appellation musée, à un moment donné, elle devenait beaucoup trop réductrice. Et pour montrer un peu toute la richesse de ce nouvel équipement, le choix a été de partir sur ce mot de cité.
Alors, il faut peut-être préciser pour les auditeurs ce qu'est un lycier. Ce n'est pas un mot très courant. Et c'est vrai qu'on ne dit pas tapissier pour parler des gens qui font la tapisserie.
Oui, ça c'est depuis la Seconde Guerre mondiale, avec la nomenclature des métiers revue par l'Éducation nationale. Le mot de tapissier s'est retrouvé attribué au terme de tapissier d'ameublement, celui qui va recapitonner les sièges. Et donc, le mot de tapissier, qui était le mot traditionnellement utilisé au Aubusson, a été supplanté par le mot de lycier, avec une orthographe encore mouvante, puisqu'on peut l'écrire avec deux S ou avec un C.
Jean-François Luneau, j'imagine que ce terme de cité, quand on travaille sur la question de l'art, et en particulier de ce qu'est l'art industriel, si ça existe comme catégorie, c'est quelque chose qui vous intéresse aussi?
Oui, c'est cité, ça évoque... c'est vrai que c'est quelque chose de plus large que le musée. Ça englobe à la fois l'œuvre patrimoniale, et la création contemporaine, ça évoque aussi les questions de savoir-faire. Et l'enjeu des savoir-faire au Aubusson, c'est très important parce que il y a eu une labellisation UNESCO du savoir-faire de la tapisserie, que la cité a la charge aussi de transmettre et de mettre en valeur.
Aubusson, c'est une ville qui a perdu beaucoup d'habitants. Il y en a 3500 aujourd'hui, alors qu'on en comptait 5000 en 2000, donc il y a une quinzaine d'années. Comment est-ce qu'on s'adapte à ce lieu-là, Bruno Itier?
C'est un lieu qui a une image forte, qui a effectivement ce problème de creux démographique. Il est commun à beaucoup d'endroits sur ce qu'on appelle la diagonale du vide des Landes aux Ardennes.
Je crois qu'il est lié à quoi, en l'occurrence, pour Aubusson?
Qui est lié très probablement à un éloignement, qui est lié à un éloignement des grandes villes, par exemple, qui est lié à une baisse d'activité. C'est-à-dire qu'il y a des flux d'affaires qui ne sont pas là, des flux d'activité qui ne sont pas là, et on voit que on a des gens qui partent, et donc il y a effectivement une érosion démographique qui se retrouve à pas mal d'endroits sur ce secteur-là, le sud creusois, le nord de la Haute-Corrèze, la Margeride, voilà, un peu plus loin. Donc il y a ce souci-là, et donc il faut trouver des actions qui vont permettre déjà de stabiliser et de relancer une activité touristique. parce que c'est un moteur économique et que c'est aussi porteur d'emplois. Et puis aussi faire parler du lieu et arriver à ce que y a des gens qui s'intéressent et puis qu'il y ait des entrepreneurs qui viennent sur ce secteur-là, des gens qui viennent s'y installer.
En 2009, la tapisserie d'Aubusson est inscrite au patrimoine culturel de l'UNESCO. C'est vraiment le tournant. On lit ici et là qu'elle était vraiment menacée de disparition. Ça se manifestait comment, cette disparition-là ?
Très concrètement, entre 2000 et 2012, le nombre d'ateliers artisanaux était passé de 16 à 4. L'école d'art décoratif, comme je vous le disais tout à l'heure, ne formait plus de lissiers. Donc on voyait bien que c'était assez paradoxal, c'est-à-dire que le nombre d'ateliers s'effondrait, qu'il y avait un vieillissement des lissiers, et en même temps il y avait toujours des commandes, et donc on était obligé d'appeler des retraités pour honorer ces commandes. Donc il y avait quelque chose d'assez étrange, et effectivement, je crois que ce nombre résume bien la situation.
Donc ça s'appelle Cité Internationale. Le caractère international, il tient à quoi ? Est-ce que vous exposez des œuvres étrangères, des artistes étrangers ? Est-ce que c'est appelé à devenir aussi peut-être un endroit d'appel d'air pour des choses qui viennent d'ailleurs ?
Alors, il y a deux aspects. On est toujours sur cette question à la fois du patrimoine et de la création. C'est toujours complètement lié, et c'est ce qui est très intéressant, je crois, dans le projet. Sur l'aspect patrimonial, on a une section qui s'appelle Tapisserie du Monde, qu'on a voulu comme un contrepoint à la labellisation UNESCO, et qui rappelle que la tapisserie est une technique universelle qu'à un moment donné de leur histoire, presque tous les peuples de la planète ont utilisée. Donc là, pour cette section-là, nous, on n'a pas de collection sur ce thème-là, donc on a des musées partenaires et des galeristes, donc notamment le musée du Quai Branly Jacques Chirac, qui est un prêteur très important de cette section, avec des pièces très précieuses d'Amérique du Sud, du Maghreb ou d'Asie du Sud-Est, et puis le musée de Clermont-Ferrand, le musée des tissus de Lyon, la galerie Hachdian à Paris, et donc ça nous permet de montrer comme ça un tour du monde. Et on conclut par une pièce prêtée par le musée de Cluny qui rappelle que c'est dans l'Europe du Moyen-Âge qu'on spécialise cette technique dans le grand décor mural. Voilà. Après, l'aspect international, il est présent dans les concours de création contemporaine où chaque année, on a près d'une vingtaine de pays qui sont représentés par les artistes qui postulent à nos appels à projets. Et donc, il y a déjà eu des Suisses, Allemands, des Argentins ou là, un jeune artiste franco-japonais aussi.
Jean-François Luneau, historiquement, qu'est-ce que vient faire cette tradition de la tapisserie à Aubusson ? Comment on explique que ça se soit implanté là ? J'ai lu qu'il y avait diverses théories sur une provenance orientale qui apparemment sont infirmées. D'où ça vient, la tapisserie à Aubusson ?
Mais je crois qu'on ne le sait pas. Réellement, on ne le sait pas. Donc il y a des hypothèses. Bon, l'hypothèse orientale, elle fonctionne pour beaucoup de techniques, beaucoup de... Donc on pourrait l'évoquer aussi pour la soirée, etc. Donc je pense qu'honnêtement, on ne le sait pas. C'est le résultat d'un processus historique qui est mal documenté. Mais voilà, on sait qu'à partir de la fin du Moyen-Âge, il y a des ateliers de tapisserie qui fonctionnent à Aubusson, dans la Marche. En général, parce que on dit Aubusson, mais il faut pas oublier Felletin, il faut pas oublier peut-être d'autres bourgs dans le nord de la Creuse qui ont aussi produit de la tapisserie.
La Marche, c'est cette région, en fait.
C'est la région du nord de la Creuse, la Marche.
Il y a un type de production qui est spécifiquement aubussonnaise, c'est ce qu'on appelle la verdure. En quoi c'est un motif particulièrement propice à la tapisserie, Bruno Itier ?
C'est effectivement un motif qu'on retrouve dans la production ancienne depuis les origines. Et il faut dire qu'il y a des périodes où on a souhaité cantonner les aubussonnais dans ce genre qui, dans la théorie de la hiérarchie des genres décoratifs ou artistiques, était considéré comme un genre mineur. Donc, notamment au XVIIIe siècle, on voit l'administration royale demander aux peintres du roi successifs de cantonner Aubusson dans ce genre de la verdure. Et donc les aubussonnais, à un moment donné, se manifestent et se rebellent un peu pour obtenir des peintures d'histoire, des scènes de genre, et aussi pouvoir avoir accès au marché un peu plus prestigieux, on va dire.
Alors ce serait quoi la verdure concrètement, les motifs types ?
Alors au XVIe siècle, c'est des espèces de grandes feuilles qu'on appelle des feuilles de chou qui sont enroulées Et autour desquels un bestiaire fantastique se combat et vient animer ces surfaces-là. Au XVIIe, les verdures sont plus un arrière-plan avec au premier plan des scènes mythologiques ou littéraires. Et au XVIIIe, on a un art de la verdure parce qu'il y a l'influence de Jean-Baptiste Oudry et on a des choses beaucoup plus fines. Aujourd'hui encore, on a une revisitation de ce genre de motifs avec, je pense notamment au projet des Argentins Ciaccio et Giannone qui ont fait la famille dans la joyeuse verdure et qui nous interroge sur ce que c'est qu'aujourd'hui le poumon vert de la planète pour eux qui sont artistes argentins et ce qu'on en fait.
Cécile Le Talec, ce qu'on entend là, c'est votre œuvre qui s'appelle Panoramique Polyphonique. Elle répondait à un appel à création de la cité sur le thème tapisserie à l'ère du mouvement. Vous avez fait de la tapisserie une sorte de refuge à taille humaine, un peu cylindrique, un refuge pour des sons d'oiseaux. L'oiseau, c'est à l'origine de cette œuvre-là ?
Oui, tout à fait. Donc, cette œuvre s'intitule Panoramique Polyphonique. Et pour cette réalisation, en fait, je me suis intéressé à l'histoire de la tapisserie d'Aubusson. J'ai répertorié depuis le XVIe siècle tous les oiseaux qui peuplaient silencieusement ces tapisseries. Que j'ai ensuite enregistré puisque ce sont des oiseaux des jardins. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est que cette dimension sonore était donc toujours visible, mais inaudible. Et comme mon travail artistique se développe essentiellement autour de la question des rapports qu'entretiennent le langage et la musique, j'ai décidé de réaliser une image d'après une composition sonore qui a été traduite sous la forme d'un spectrogramme. Et ce spectrogramme, composé de paroles sifflées de chants d'oiseaux, a constitué donc la matrice de ce projet. Et en fait, moi, depuis aussi une quinzaine d'années, je travaillais en amont sur cette question justement de langage et musique, et surtout autour des langues sifflées. Donc, et je travaille aussi avec des phonéticiens et des linguistes. Cette langue sifflée qu'on retrouve dans une quarantaine d'endroits sur la planète, et notamment sur l'île de La Gomera, qui avait été en 2006 classée aussi patrimoine mondial de l'humanité, donc le Silbo Gomero. Et c'est pourquoi, pour ce projet, partition, j'ai décidé de faire cette composition entre ces chants d'oiseaux qui peuplent les tapisseries et ces paroles sifflées. Alors pour ça, j'ai écrit des dialogues qui ont été traduits en langue sifflée, et donc c'est un échange, une conversation qui est rendue possible par cette tapisserie. Et ensuite, là, j'ai choisi non pas de réaliser une tapisserie murale, mais de réfléchir en même temps aussi dans ce projet à l'origine, on va dire fonctionnelle aussi, de la tapisserie, qui était un isolant phonique et un isolant thermique, enfin surtout thermique. Et donc j'ai décidé d'en faire une architecture cylindrique. Et cette architecture cylindrique permet déjà d'une part le déploiement du son, et permet aussi quand on rentre à l'intérieur, parce que le public est invité à pénétrer à l'intérieur de cette architecture tissée et sonore, de faire une expérience complètement immersive dans la tapisserie, dans l'image du son et dans le son.
Comment est-ce que vous avez travaillé concrètement avec l'atelier de tapisserie ?
Alors, c'est l'atelier A2 donc d'Aubusson qui a réalisé cette tapisserie. Et je suis, donc elles avaient un carton réalisé à partir de l'image numérique. Et assez régulièrement, en fait, je suis allé travailler avec elles. Et notamment aussi pour le choix des couleurs. Puisqu'en fait, c'est une tapisserie, je parle de couleurs, mais c'est une tapisserie qui a été réalisée en noir et blanc et variété de gris. Donc je crois qu'il y en a 38. Et donc on a travaillé aussi avec les teinturiers. Donc et les matériaux qui ont été utilisés, puisque l'œuvre doit être pérenne. Hein, puisque les tapisseries, elles sont encore, enfin, elles ont 600 ans, hein, celles qui sont historiques. Donc, les matériaux qui ont été utilisés étaient des soies, des cotons, des laines et un nouveau matériau, hein, des fils de bambou, qui permettent d'accrocher la lumière et d'être très très blanc.
Ça a pris combien de temps? Parce que ce qui est vraiment impressionnant, c'est les délais, hein, de création d'une tapisserie, c'est extrêmement long.
En fait, l'atelier A2 a travaillé, a commencé en septembre, donc elles étaient trois à plein temps. Elles l'ont terminé fin juillet 2013. C'est ça? Je ne me trompe pas.
Un an et demi.
L'ancienne directrice du musée Jean Lursa dit que la tapisserie est une industrie d'art comme le cinéma. Vous êtes d'accord avec ça, Jean-François Luneau? Ça vous paraît être une bonne analyse pour essayer d'expliquer ce qu'est la tapisserie par rapport à l'industrie et par rapport à l'art?
Alors, oui, dans le cinéma, il y a le final cut. Voilà, et dans la tapisserie, il y a la tombée de métier. C'est le moment où on coupe les fils et où la tapisserie tombe du métier. Alors, cette image, oui, fonctionne bien. Après, il est clair que dans le cinéma, il y a un nombre de rôles extrêmement importants. Et je pense que dans la tapisserie, c'est un petit peu pareil. Et on a, avec le discours de Cécile, identifié les deux principaux. C'est le plasticien qui crée le projet. Et puis le lissier ou le tapissier, comme on voudra l'appeler, qui le crée réellement, qu'il traduit. Et l'image est peut-être un peu éculée, mais l'image musicale est très vraie aussi. Il y a une partition. Et si on donnait l'œuvre de Cécile à d'autres lissiers, je pense que la traduction serait différente. Il y aurait une interprétation différente. Alors après, le terme d'industrie, on peut l'employer. Bon, pour l'ancien régime, je l'emploierai pas parce que c'est quand même très connoté 19e siècle. Mais oui, au 19e siècle, il y a des grands ateliers avec un grand nombre de métiers, des ateliers qui sont dirigés par des chefs d'entreprise qui n'ont rien à envier aux capitaines d'industrie. Je pense à Charles Salandrous de La Mornay, qui a été, alors qui est un homme de Feltin à l'origine, une famille de Feltin, et qui a relancé l'industrie du tapis à Aubusson. Qui a fait aussi de la tapisserie, mais aussi beaucoup de tapis. Cet homme-là, dans les années 1820-1830, c'est un des pionniers des rapports commerciaux avec l'Angleterre. Très tôt, il va organiser des expositions de ses propres produits en Angleterre, et puis il va inviter d'autres producteurs textiles, mais aussi céramistes, etc., à exposer en Angleterre, avant même l'exposition universelle de 1851. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 1851, il est chargé par le gouvernement français de diriger la délégation française à l'Expo universelle. Donc lui, oui, il a vraiment derrière lui une industrie avec une unité de production à Aubusson, une autre à Paris, et il travaille sur les relations internationales, la diffusion à l'échelle européenne. Donc là, oui, on peut parler d'une industrie d'art, oui.
Vous parliez de cette distinction entre le fait, entre les artistes, entre guillemets, et puis les artisans, c'est-à-dire d'abord l'artiste propose ce qu'on appelle un carton, donc c'est un petit peu ce que vous expliquez, à savoir une œuvre qui va être transformée, une sorte de pré-œuvre qui va être transformée dans la tapisserie. Je crois que cette distinction-là, elle n'a pas toujours eu lieu, notamment dans les années 60. Il y a eu tout un courant d'artistes qui se sont emparés eux-mêmes de la technique tapissière et qui ont, au final, tissé eux-mêmes, Bruno Ittier.
Oui, c'est le mouvement de ce qu'on a appelé la nouvelle tapisserie, qui avait comme point d'orgue tous les deux ans la Biennale internationale de Lausanne. Donc ça, c'est un enfant qui a échappé à Jean Lursa, puisqu'il était à l'origine de la création de ce phénomène. Et très vite, il s'est trouvé en marge de ce mouvement. L'enfant s'est retourné contre lui, on pourrait dire, et apparemment il en gardait une certaine amertume. Et très vite, on a parlé de tapisserie sauvage, parce que sont apparues des pièces monumentales avec des matériaux très bruts, arrivant d'artistes de l'Europe de l'Est. Et on peut penser à des gens comme Magdalena Bakanovic, par exemple, avec ses pièces de plusieurs mètres de haut, très très impressionnantes. Et donc là, on avait effectivement un tout nouveau mouvement qui a mis tout l'art de la tapisserie un peu en, on va dire, en turbulence au niveau français, parce que c'était une remise en cause de la tapisserie d'interprétation avec ses rôles bien déterminés entre l'artiste et l'artisan d'art. Là, c'était une remise en cause. Tous les fondamentaux de la tapisserie étaient remis à plat. La tapisserie murale, pourquoi le mur? Elle est sur deux plans, pourquoi pas en trois dimensions? Il y a un artiste qui donne ses ordres à un artisan d'art, mais pourquoi l'artisan d'art obéirait à l'artiste? Il peut être lui-même son propre créateur. Il y a un carton pour la tapisserie, et si on faisait des tapisseries sans carton? Tous les fondamentaux sont remis à plat, et c'est un mouvement qui a continué sa vie. Alors la Biennale de Lausanne s'est arrêtée en 1995, mais ça continue aujourd'hui. Et si à l'échelle internationale, aujourd'hui, on parle de fiber art, c'est un petit peu l'évolution de ce mouvement-là qui s'est développé pendant, oui, plus d'une trentaine d'années.
J'ai lu qu'à la Cité, vous aviez 15 000 pièces de carton dans la collection. Qu'est-ce qu'on fait de ces objets-là? Quel statut on leur donne? Est-ce que ce sont des œuvres? Est-ce que ce sont des pré-œuvres, comme je disais un peu maladroitement, Bruno Itier?
Il y a deux sortes de cartons principalement. On va dire qu'il y a les cartons réalisés dans les ateliers ou les manufactures par les cartonniers au Buissonnet, qui sont déjà une transcription d'une maquette fournie par un artiste. Et puis, à partir des recherches de l'École nationale d'art décoratif à Aubusson, d'abord sous l'égide d'Antoine Marius Martin, puis d'Élie Mingona, on a, à partir de là, le mouvement du peintre cartonnier. C'est-à-dire que l'école théorise ce principe du peintre cartonnier, c'est-à-dire un artiste qui va penser la tapisserie quand il fait son carton. C'est-à-dire qu'il donne toute l'écriture technique dans le carton. Et là, le carton, dans ce cas-là, est l'œuvre autographe d'un artiste. Donc on en a de très importants, de gens comme, bah évidemment, comme Jean Lursa, mais aussi comme Mario Prasinos, qui a écrit de très belles pages sur le lyrisme de faire un carton numéroté, et puis d'autres artistes. Et là, le carton est un original. Donc il y a déjà deux statuts dans ces collections-là. Et puis, effectivement, leur valorisation, elle est pour nous amenée, parce que, oui, plusieurs milliers de cartons, c'est un vrai enjeu en termes de chantier des collections, y compris de logistique muséale. Oui, il y a un vrai enjeu pour les années à venir.
Vous avez, je crois, à la Cité, un Braque et un Vasarely. À quoi ils ressemblent? Et est-ce qu'on sait ce que Braque et ou Vasarely pensaient de la tapisserie, pensaient du résultat fini de l'œuvre en question?
Il doit sur deux grandes œuvres, effectivement. Pour Braque, c'était un enjeu, parce que Braque avait déjà été confronté à une première façon d'interpréter son œuvre en textile avec l'éditrice et collectionneuse Marie Cutoli dans les années 30. Et il en gardait une expérience pas forcément très positive, parce que pour lui, c'était vraiment... On était encore dans la logique de la tradition du 18e et du 19e siècle d'une peinture tissée. C'est-à-dire qu'on mobilisait tous les savoir-faire des lissiers pour retrouver à travers la tapisserie l'écriture de la peinture. Et Braque aurait dit « si j'avais besoin de faire une copie d'une de mes œuvres, j'irais voir un photographe ». Et donc, il a rencontré à Aubusson un interprète talentueux, Pierre Baudouin, un artiste à la base qui était venu comme enseignant à Aubusson et qui, comme il le disait, avait pris le virus de l'interprétation. Et on a la chance, grâce à un collectionneur privé, là, de pouvoir remettre en confrontation l'huile sur papier original de Braque et la tapisserie. Et on voit que là, il y a une nouvelle voie qui est proposée par Pierre Baudouin pour l'interprétation, et qui est de remplacer tous les tons fondus de l'huile par simplement des toutes petites bandes fines de couleur pure qui recréent la vibration de l'huile, mais avec une écriture qui, là, est textile. Et l'œuvre, elle est intensément textile. Pour Vasarely, alors ça c'est tout un pan de la vie de Vasarely qui serait à explorer, c'est que Vasarely a travaillé pour Denise René à partir des années 1950, pour la galerie Denise René qui défendait l'art abstrait et l'art géométrique, pour réaliser une collection de tapisseries expérimentales. Et Vasarely a travaillé sur la thématique du carton photographique, premier carton photographique mis en place par Man Ray dans les années 30, toujours pour Marie Cutoli, et qui va, Vasarely va adapter et va travailler les cartons d'une façon très particulière. Il agrandit la maquette directement en photo et ensuite il retravaille dessus. Ensuite, c'est tout un pan de la vie de Vasarely qui est méconnu, c'est-à-dire qu'il a dirigé des tissages à Aubusson avec la manufacture Tabar et ils ont mis au point comme ça une série de tissages avec des grands aplats. On est très très loin de l'écriture technique de Lursa et de ses compagnons de route. Là, on travaille pas par des jeux de hachures ou de passages de couleurs avec des formes, une écriture très marquée. Là, on est vraiment sur des aplats juxtaposés. Je crois que le summum de ce qu'ils ont dû réaliser dans ce domaine-là, c'est une série de tapisseries à partir des hommages au carré de Joseph Albers, où vous avez une grande tapisserie monochrome avec juste 4 nuances de jaune ou 4 nuances de bleu. Et c'est quelque chose qui a été assez éprouvant pour les lissiers. Les lissiers de chez Tabar en gardent une expérience assez, on va pas dire douloureuse, mais c'était assez intense pour eux, mais pas très positif quand même.
Cécile Le Tallec, quelle image vous aviez de la tapisserie avant de travailler avec l'atelier d'Aubusson?
Moi, de toute façon, quand j'ai déposé ma candidature dans le cadre de cet appel d'offres, j'avais finalement peu de connaissances sur la tapisserie. Enfin, j'en avais bien sûr vu dans les musées. Et c'est en travaillant sur le projet que j'ai vraiment en fait découvert, cherché, fouillé pendant des semaines et des semaines. Et ça a été pour moi vraiment une vraie révélation, une vraie découverte. Ça a été aussi un vrai plaisir ensuite quand j'ai commencé à travailler avec l'atelier à deux, donc François Odile Crénière et Martine Stam qui ont réalisé la tapisserie. De comprendre comment ça fonctionnait. Et ce qui m'a aussi d'emblée émerveillé, c'était, et ça je ne le savais pas, que l'édicier travaille à l'envers, travaille la tapisserie à l'envers, donc il y a ce rapport au recto-verso, et on est toujours au verso de l'image, et pour qu'il puisse voir donc l'image qui est en train d'être tissée, en fait, il y a parfois des miroirs qui sont posés sous le métier, enfin sous le métier. Soit on est invité aussi à aller sous le métier pour regarder. Et ça, j'ai trouvé ça absolument extraordinaire, hein, d'être capable de projeter finalement l'œuvre, hein, parce que c'est une œuvre monumentale de cette manière, et aussi de la concevoir d'emblée en négatif comme la photographie.
Le grand feu qu'on avait allumé dans la soirée continue de brûler et jette une vive lueur. J'en profite pour regarder à loisir les trois panneaux de tapisserie du 15e siècle. La tradition prétend qu'ils ont décoré la tour de Bourganeuf durant la captivité de Zizim. Monsieur Adolphe Johann, préfet, croit qu'il représente des épisodes du roman de la Dame à la licorne. C'est probable, car la licorne est là, non passante ou rampante, comme une pièce d'armoirie, mais donnant la réplique, presque la patte, à une femme mince, richement et bizarrement vêtue, qu'escorte une toute jeune fillette, aussi plate et aussi mince que sa patronne. La licorne est blanche et de la grosseur d'un cheval. Dans un des tableaux, la dame prend des bijoux dans une cassette. Dans un autre, elle joue de l'orgue. Dans un troisième, elle va en guerre, portant un étendard aux plis cassants, tandis que la licorne tient sa lance en faisant la belle sur son train de derrière. Cette dame blonde et ténue est très mystérieuse. Et tout d'abord, elle a présenté hier à ma petite fille l'aspect d'une fée.
« Un extrait du journal de George Sand dans une émission du 24 avril 79 sur cette même antenne sur France Culture qui parle de la tapisserie probablement la plus connue du public, la Dame à la Licorne, qui est au musée de Cluny à Paris, qui a fait l'objet de dizaines de milliers de visites depuis qu'elle a été restaurée et donc réaccrochée il y a quelques années. La plus vieille œuvre de la cité à Aubusson, c'est la Mille fleurs à la Licorne qui date du 15e siècle. On voit, il y a vraiment une affinité particulière entre la tapisserie et les licornes. À quoi ça tient, Bruno Hittier?
Alors là, ça c'est un grand mystère, le pourquoi de cette affinité, c'est très curieux. Il y a, en plus, c'est un animal qui vient souvent en rupture quand Pierre Daquin, qui est un des premiers artistes, lissier créateur en 1971, fait une première exposition à la Galerie La Demeure à Paris sur une nouvelle tapisserie en trois dimensions. Il y a encore un titre de licorne dans son œuvre. Et quand on a fait notre premier concours de création de tapisserie contemporaine en 2010, l'œuvre lauréate du jeune artiste Nicolas Buff, c'était Peau de licorne. Il avait bien senti qu'il y avait autour d'Aubusson une dimension mythique dans laquelle Aubusson était un peu prisonnier et qu'il fallait tuer le mythe. Et alors donc lui, il tue la licorne. Et qu'est-ce qu'on fait avec la dépouille de la bête? Et ben on prend sa peau et on en fait un tapis. Et donc il crée cette œuvre mi-sculpture, mi-tapis, qui est Peau de licorne, avec ses éléments en porcelaine de Limoges et son tissage assez impressionnant en laine et en soie.
Jean-François Luneau, sur cette question de licorne, vous avez une hypothèse?
Non, pas vraiment.
Cette mille fleurs à la licorne, elle ressemble à quoi et en quoi elle est emblématique de son époque?
Alors c'est une licorne cabrée, elle ressemble un peu, on en voit dans certaines des six pièces de la tenture qui est au musée de Cluny, on voit comme ça ces licornes debout sur leur patte arrière, qui sont donc présentées sous une forme héraldique, c'est-à-dire qu'elles sont là pour présenter un blason. Là en l'occurrence, celle qu'on a présente le blason de la famille de Chabannes, une des grandes familles de l'histoire de France qui possède toujours aujourd'hui le château de la Palisse dans le Bourbonnais, dans l'Allier, et elle est sur un fond dit de mille fleurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de perspective, il n'y a pas de paysage, il y a à touche-touche des centaines de fleurs les unes à côté des autres. Et ce qui caractérise ces fleurs-là, c'est qu'elles sont traitées avec une très forte géométrisation, ce qui fait que par moments, quand on regarde certains détails, il y a une impression de modernité tout à fait surprenante dans le graphisme.
Comment est-ce qu'on restaure une tapisserie? Quel type de travail, de technique ça demande?
C'est une technique longue et qui demande beaucoup de réflexion, parce que c'est toujours le problème en restauration du patrimoine, c'est qu'à un instant T, on est toujours persuadé qu'on maîtrise la meilleure technique et on a un regard très très critique sur ses prédécesseurs, et on doit se dire que dans 20 ans, on va trouver son propre travail pas très bon. Donc toute la restauration est quelque chose qui demande une grande éthique, une grande réflexion. Nous, on a la chance d'avoir à Aubusson plusieurs restaurateurs agréés à Musée de France, et ils font partie de cette communauté professionnelle. Cécile parlait tout à l'heure du teinturier, de cette communauté professionnelle ininterrompue depuis plus de 5 siècles à Aubusson. Et ça, je pense que c'est un des savoir-faire qui fait partie des savoir-faire très importants à Aubusson.
Cette industrialisation de la tapisserie, est-ce qu'elle a eu des effets sur les techniques, justement, sur les machines? Parce que là, j'ai regardé du coup des petites vidéos qui sont sur le site de la cité. On a l'impression que c'est encore extrêmement artisanal. Tout est en bois, des pédales en bois. C'est un travail qui se fait uniquement à la main. Jean-François Luneau, est-ce qu'il y a eu un moment d'accélération ou de renouvellement des techniques de lissier?
À l'évidence, il y en a eu, mais on ne les connaît pas forcément. Parce que... on évoquait avant l'émission cette question avec Bruno. La question patrimoniale est très importante, mais à partir du moment où il y a un progrès qui est réalisé sur le métier, à la génération d'après, on a déjà oublié que le progrès était récent et aussitôt il est inséré dans la tradition. Ça reste quand même un métier qui est très artisanal et très traditionnel, à la fois dans l'outillage et à la fois dans les gestes.
Les œuvres, elles sont toutes, pas toutes, mais beaucoup sont des œuvres monumentales, ce sont des grandes œuvres, les tapisseries. Qu'est-ce que ça supposait dans l'économie, dans la scénographie, dans le lieu même qu'est la cité internationale de la tapisserie, Bruno Hittier? Comment vous avez imaginé l'accrochage?
Ça a été un travail d'équipe important avec déjà, c'était une contrainte initiale du projet, c'est-à-dire que le bâtiment de l'École nationale d'art décoratif que l'État nous a confié et qui accueille cette cité, et c'est un bâtiment qui tient sur une structure poteau-poutre.
Donc,
c'est-à-dire que tous les 4 mètres, vous avez des poteaux verticaux et que si vous faites un trou au plafond ou un trou dans le sol, vous retombez sur des poutres. Toujours, si vous déshabillez complètement le bâtiment, c'est comme des allumettes, mais qui auraient 4 mètres de long dans toutes les directions. Donc pour l'équipe d'architectes Terre-Neuve qui avait gagné le concours d'architecture, il fallait arriver à loger là une grande salle de 600 mètres carrés, de 7 mètres de haut et libre de toute contrainte. Donc là, ils ont fait une reprise en sous-œuvre pour loger cette salle sous le bâtiment existant. Sur une partie, c'était assez osé comme parti pris, mais ça a bien fonctionné. Et ensuite, pour nos muséographes, l'atelier Paoletti et Roulant, là, il y a eu une réflexion sur cette problématique de la monumentalité. Avec nous, on avait évoqué une demande qui était de recontextualiser les tapisseries dans leur époque, qu'on soit pas dans un accrochage beaux-arts avec des murs uniformément peints. On voulait quelque chose qui les recontextualise, mais on n'est pas le musée des arts décoratifs, donc on pouvait pas avoir des period rooms complètes avec les meubles, tout l'ensemble d'époque. Donc le parti pris de nos muséographes a été de nous proposer d'avancer sur une idée de décor spectaculaire qui évoque et qui se revendique comme décor et comme élément faux, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté pour les visiteurs. Et elles nous ont proposé un travail remarquable autour de décors de théâtre avec une équipe de monteurs et de peintres, l'atelier Antoine Fontaine notamment, qui travaille beaucoup en décors de théâtre et d'opéra, qui ont réalisé des décors successifs en soit en trompe-l'œil, soit avec des effets de matière tout à fait spectaculaires et réussis. Et après, il y a tout un travail extrêmement fin sur l'éclairage qui fait que ce décor reste en arrière-plan. Il est juste suggestif et les œuvres viennent se détacher dessus avec juste la bonne dose de lumière qui va à la fois pour la mise en scène et à la fois pour la conservation des pièces.
Ça révèle quelque chose, je trouve, de la tapisserie, ce décor théâtral et comme ça très mis en scène, puisqu'il y a quelque chose de très narratif dans la tapisserie. Vous parlez notamment dans des tapisseries du XVIIe siècle qui illustrent des récits, ce sont des œuvres fables en quelque sorte. Qu'est-ce qui, dans la tapisserie, est propice à ce type de travail-là, Bruno Ittier?
Je crois qu'il y a le fait qu'on travaille sur plusieurs panneaux déjà, donc on peut dérouler une histoire, ce qui permettait, je pense, aux clients de l'époque de vivre au milieu de leur héros favori. Je pense que ça devait être assez surprenant quand on avait lu l'Astrée d'Honoré d'Urfé, d'avoir tous les personnages de l'Astrée autour de soi. Ensuite, il y a la monumentalité qui permet de tisser des personnages à échelle 1. Donc ça, ça devient quand même assez surprenant. Et puis, il y a ce jeu de la bordure qui crée un cadre et qui crée à l'intérieur de la maison une fenêtre sur un ailleurs. Et cet ailleurs, il est là, autour de soi. Il est chaud, il est chaleureux, on se love dedans. Et puis, je pense qu'on a du mal à imaginer aussi les conditions d'éclairement de ces pièces-là. Et je pense que avec les lumières vacillantes qu'on pouvait avoir, de lumières très jaunes et assez vacillantes, assez mouvantes, je pense que les parties en laine qui sont très mates et les parties en soie qui sont brillantes et qui sont toujours placées à des endroits assez stratégiques dans l'œuvre, je pense que ça donnait un effet où on allait véritablement avoir quelque chose qui s'animait sur la surface et dans les perspectives et dans les profondeurs. Donc je pense que ça créait véritablement quelque chose et ça se prêtait bien à la mise en scène.
Un grand merci à vous trois, Bruno Ittier. Je rappelle que vous êtes conservateur à la Cité internationale de la tapisserie, Jean-François Luneau. Vous êtes maître de conférence à Clermont-Ferrand et vous êtes aussi conseiller scientifique à la Cité, qu'on peut donc visiter à Aubusson depuis le 10 juillet dernier. Et Cécile Le Talec, je crois qu'un livre monographique a paru qui s'appelle Sonorama aux éditions Dilecta.
Transculture. La grande table d'été, Lucille Como.
Dans un instant, nous accueillerons Amos Gitaï, mais tout de suite, il est 13h24, c'est l'heure de la session musicale programmée comme tous les jours de ce mois par Boris Pinault. Aujourd'hui, c'est électro avec Feynman. Sa musique plane entre Paris, Los Angeles et Fontainebleau, les trois villes entre lesquelles il a composé son premier album. Johan Feynman a créé son propre label avec des amis, il s'appelle Fake Music, et il nous propose aujourd'hui une grande respiration en direct dans la grande table d'été avec son titre Air. C'est à vous. On se met en place. Petit problème de son, Feynman sera en concert, je le précise, le 8 septembre à Bordeaux dans le cadre du festival Ocean Climax et le 13 octobre à la Machine du Moulin Rouge à Paris pour le festival Mama. Et l'album donc, qui s'appelle Air est sorti en juin dernier chez Fake Music. Est-ce que c'est bon ? Pas de musique. Alors, petit problème de machine, on va peut-être enchaîner et on placera peut-être la musique un petit peu plus tard. On essayera d'écouter la musique un petit peu plus tard, éventuellement en fin d'émission. En attendant, je suis très heureuse d'accueillir Amos Gitaï. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes artiste israélien. Vous vivez aujourd'hui entre Paris et Haïfa. De vous, on connaît surtout vos films. Le dernier s'appelle Le Dernier Jour d'Itsak Rabin et il est sorti l'année dernière. Il y a quelques jours, vous étiez à Avignon. Vous présentiez dans la cour du Palais des Papes une performance liée directement à ce film, puisqu'elle s'appelait Itsak Rabin, chronique d'une mort annoncée, articulée à une exposition à la collection Lambert qu'on peut toujours voir aujourd'hui à Avignon. Et puis sort en DVD la captation d'un précédent spectacle créé en 2009 à Avignon. Le spectacle s'appelait La guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres. C'est aux éditions Épicentre. Alors on va parler de cette pièce-là en elle-même, mais d'abord peut-être une question formelle parce que je pense que ça vous intéresse sur ce film qui sort. Qu'est-ce que ça implique à Amos Gitaï de filmer le théâtre ? C'est quelque chose que vous avez fait vous-même ?
Moi, je suis simplement un architecte de formation. Alors, j'adore d'expérimenter avec d'autres médiums que j'ai jamais fait. J'ai passé 9 ans d'études d'architecture. J'ai fait mon diplôme en Israël après un doctorat aux États-Unis. Et à partir de là, je sens que j'aime bien naviguer entre des disciplines différentes. Alors, j'ai fait des films depuis pas mal de temps. D'abord des courts-métrages, des Super 8, après des documentaires et des films de fiction. Et j'ai fait aussi des théâtres, des fois, très rares. Et j'ai fait des expos, que vous avez mentionné. Alors, de naviguer entre les disciplines, mais garder chaque discipline dans son rigueur. C'est-à-dire, j'aime pas faire des théâtres qu'il y a trop des éléments cinématographique intégré, je crois qu'il y a trop, je crois qu'il y a un dérapage un peu exagéré d'un médium à un autre, mais moi j'ai adoré toujours observer Peter Brook comme il fait des théâtres avec des très peu de moyens, mais tellement touchant, c'est-à-dire qu'il va pour moi au fond de cette définition qu'est-ce que c'est le théâtre, qu'est-ce que le théâtre il peut amener que le cinéma il peut pas. Effectivement, on a enregistré quelques le spectacle que j'ai fait, j'avais l'honneur, je peux dire, de travailler avec Jeanne Moreau et aux carrières de Boulbon. Et c'était une énorme expérience de travailler avec Jeanne Moreau, qui est une être humaine tellement brillante, précise, exigeante. C'est une très très grande classe de comédiens et de mettre en scène cette... La guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres qui, le jour d'aujourd'hui, sort sur DVD.
Au départ de ce spectacle, il y a La guerre des Juifs, qui est un texte de Flavius Joseph écrit entre 75 et 79 après Jésus-Christ, qui raconte la grande révolte des Juifs de Galilée et de Judée contre l'Empire romain au 1er siècle et l'écrasement de la rébellion par Vespasien et par Titus. Il y a la destruction du Temple et de Jérusalem qui sont comptés dans ce récit-là, et puis surtout le début de l'exil. On écoute un extrait du début.
La guerre menée par les Juifs contre les Romains est la plus considérable, non seulement de celle de notre temps, mais peut-être aussi de toutes les guerres dont le récit nous est parvenu et qui ont éclaté soit entre cités, soit entre nations. Parmi les historiens de cette guerre, beaucoup n'ont pas pris part aux opérations. Ils ont glané au petit bonheur des ondits contradictoires et rédigés avec des effets de style de sophiste. D'autres ont pris part à la guerre, mais courtisanerie à l'égard des Romains ou haine des Juifs. Ils ne cessent de rabaisser les actions des Juifs, de les minimiser. Ils veulent prouver la grandeur des Romains. Je ne vois pas comment pourraient paraître grands des gens qui remportent des victoires sur des nains.
Là, c'est le début du texte lu, comme vous le disiez, par Jeanne Moreau et qui explique bien, je crois que c'est quelque chose d'important pour vous, que Flavius Joseph était à la fois partie prenante de cette guerre puisqu'il l'a combattue, il était à la fois historien puisqu'il veut faire œuvre d'historien et puis de manière un peu, voilà, on peut pas vraiment en parler pour cette époque, mais journaliste, est-ce que cette manière de se positionner, c'est aussi la vôtre, Amos Gitaille?
Moi, je crois que Flavius Joseph... D'ailleurs, il faut saluer France Culture qui a fait la captation de sept spectacles et à Carrière des Bourbons et cette année qui a fait à nouveau les captations des spectacles sur l'assassinat de Rabin, qui nous a laissé cette trace sonore de grande qualité. Mais c'est aussi un travail des journalistes contemporains. Mais Flavius Joseph, c'est une figure extrêmement intéressante. C'est peut-être un des plus grands textes d'Antiquité. Qu'il parle d'événements historiques, pas d'une façon mythologique, mais comme une sorte de récit, de constat. On sent que Flavius Joseph, il y a plus que 2000 ans, il va interviewer les combattants qui reviennent des batailles. Il nous décrit des édifices architecturaux construits par Hérode. Alors il nous donne une image extrêmement complète, d'ailleurs qui a aidé beaucoup l'archéologue qui travaille actuellement dans les fuites d'archéologie. Et je trouve qu'il comprend les dimensions essayistes, journalistes, essayistes, historiens, qui nous a laissé des traces pour les générations de futur. Alors, nous, à notre modeste façon, je dis moi et mes amis qui m'aident de faire ce travail, on trouve que le drame israélien, c'est un drame de très haut niveau. Qui se mélange de courants très optimistes, de projets de construction d'un nouvel type de société, d'égalité, aussi d'éléments tragiques comme le destin des Juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale. Alors c'est un drame énorme, et le conflit actuel du Moyen-Orient, qui mérite de faire des cinémas et des cultures, des théâtres très très forts. Alors on peut dire à votre façon que c'est qu'on a inspiré par ce travail d'époque.
Vous dites que ce texte de Flavius Joseph faisait partie de vos fantômes. Est-ce qu'il a cessé de vous hanter une fois que vous l'avez mis en scène?
Non, je crois que mes fantômes, ils sont toujours là. C'est-à-dire, c'est à la fois des histoires familiales de mes parents, c'est des histoires de grands textes historiques comme celui-là, ou d'événements qui touchent ce territoire, mon pays où j'étais né, Israël, qui me touche aussi. Que je sente le désir de travailler avec cette sorte de matériaux.
Vous avez mis en scène cette pièce dans la carrière Bourbon. Vous le disiez, il faut décrire ce lieu. C'est une carrière à ciel ouvert à quelques kilomètres d'Avignon. Un lieu très impressionnant, ça impose, qui est creusé dans la pierre avec des immenses parois monumentales, qui a été inauguré par Peter Brook pour le Mahabharata en 85. Comment est-ce que vous avez abordé ce lieu? Au départ, vous disiez architecte. Est-ce que vous l'avez vu en architecte, Amos Gitaille?
Moi, je vois toujours. Moi, je trouve que toujours, presque tout mon travail aussi comme cinéaste, il a inspiré de ce métier que j'ai appris. Poursuivre, a priori, le travail de mon père, qui était architecte de Bauhaus, et que j'aime toujours situer dans les paysages des textes. Alors, j'arrivais à cette spectaculaire carrière de Bourbon, avec effectivement les références des travaux qui étaient faits précédents. Et j'ai placé des séries de structures très légères, métalliques, avec laquelle j'ai placé les Vespasien et Titus et Jeanne Moreau sur une table tout simple de bois devant le public, avec un groupe de musiciens israéliens très, très doués, avec un canteur qui chantait yiddish, mais aussi en hébreu. Et cette sorte de série de gestes minimalistes, le théâtre devient une sorte de réflexion sur l'histoire, mais aussi de l'ombre de cette histoire sur les contemporains.
C'est une mise en scène qui est nécessairement imposante dans ce lieu-là, qui doit prendre en compte des volumes. Je sais que vous aviez en tête votre premier film, un film qui s'appelle House, donc Maison. Quel est le rapport entre les deux pour vous?
Moi, je trouve que chaque film, il est autonome. C'est vrai que j'aime bien des fois construire des trilogies de cinéma, mais je crois qu'ils sont toujours là et un travail inspire l'autre, mais pas d'une façon très directe. Je crois que dans cette DVD qui vient d'être édité par Epicentre, avec aussi, ils ont eu la gentillesse de publier tous les textes de ce spectacle, on voit le travail, le rapport entre les textes, les mises en scène, les musiques, aussi toutes les questions de sonographie, aussi les multilingues, parce qu'il y a les français, essentiellement par Jeanne Moreau, et après l'américain, c'est-à-dire l'empereur joué par Jérôme Koenig, il est américain, la langue d'Empire. Aussi, il y a un acteur palestinien, un acteur israélien. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de dialogue entre les langues et la sonorité de cette langue différente.
Je reste sur cette question d'architecture parce que c'est vraiment important pour vous. Quand vous êtes entré sur scène le 11 juillet dernier, avant la performance à Avignon dans la cour du Palais des Papes, vous avez dit « Bonsoir, je suis Amos Gitaille, architecte de formation et fils d'un architecte de Bauhaus ». C'était quoi ce que faisait votre père comme type d'architecture et pourquoi il fallait le dire à ce moment-là, Amos Gitaille ?
Moi, je trouve qu'il faut toujours... L'ancêtre, ils sont avec nous, avec moi. Et ils sont une source de référence, une source d'inspiration. Je parlais aussi à mon désir de faire des théâtres qui vont aux choses profondes, minimalistes, pas trop illustratives. J'ai fait référence aussi à un contexte politique actuel en Israël vis-à-vis de la culture. Moi, je trouve que c'est l'architecture et surtout le travail que j'ai vu, qui est fait par mon père, comme j'ai voyagé avec lui dans les sites de construction. J'ai vu comment il a parlé avec les pentes, les charpentiers, etc. C'est-à-dire qu'il a compris, grâce à son école Bauhaus, qui était très impliqué dans l'artisanat aussi, pas seulement dans le design, qu'un bon travail, le bon édifice construit, c'est un édifice collectif, c'est-à-dire qu'il faut assembler l'énergie et les talents de plusieurs personnes. Et c'est pas des métiers, ni le cinéma, ni le théâtre, ni l'architecture intimiste, mais il faut savoir mobiliser, on peut dire même, aux causes communes, un groupe de gens. Et si on a réussi, c'est parce que lui, par exemple, sur le building, il a exigé que les pentes, les charpentiers, ils vont faire un travail précis, mais aussi il y avait une chose qui est venue des charpentiers et des pentes, c'est pas seulement l'architecte. Et je crois que cet aspect-là, qui n'est pas strictement hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a l'architecte qui est une figure centrale, mais il y a un aspect de dialogue avec tout l'autre métier, c'était peut-être la première formation de moi comme cinéaste que j'ai compris un peu plus tard.
À propos de la manière dont vous travaillez justement en collectif, j'ai lu un petit entretien avec Jeanne Moreau qui disait que le scénario existait bel et bien dans votre travail, mais que ça bougeait beaucoup. Est-ce que vous diriez que c'est le cas pour toutes vos œuvres ? Est-ce que vous êtes toujours un peu dans une démarche de work in progress, d'œuvres qui évoluent au fur et à mesure, Amos Gitaille ?
Oui, moi je trouve que le processus est une chose très, très nécessaire et importante. J'ai un ami qui travaille à la CNRS, Pierre-Marc de Biasi, qui est en train de faire un travail sur les brouillons de mon travail. Et je crois que le scénario que je fais souvent avec Marie-Josée Sanselme, c'est une sorte de simulation, on peut dire dans les métaphores architecturales, d'échafaudage. Mais à partir de cette simulation nécessaire, c'est-à-dire dans laquelle on va articuler les paramètres, et il faut rester ouvert, c'est-à-dire il faut être dans l'écoute des comédiens, même des gens qui font les décors. Des fois même un film que j'ai fait avec Natalie Portman, Yam Abbas et Anna Laszlo, l'idée est arrivée d'un chauffeur. Free Zone, c'est une idée que lui il m'a raconté, son expérience. Alors j'aime bien être nourri par toute cette richesse humaine et pas être exécutant. Je trouve que l'architecture et le cinéma souffrent de cette démarche d'exécutant, c'est-à-dire qu'on a fait un scénario, maintenant on va strictement exécuter, j'utilise le terme exprès dans le mauvais sens, exécuter le scénario. L'architecture souffre beaucoup qu'on dessine le building. Dans l'atelier d'architecte. Maintenant, on va exécuter le building. Alors, s'il y a un arbre, on va couper l'arbre. S'il y a une colline, on va la bulldozer. Moi, je vais intégrer l'arbre et la colline à mon travail.
Il ressemble à quoi alors vos brouillons à Mosquitaille?
C'est à la fois des cris, des croquis que je fais, mais aussi c'est un state of mind mental.
Un état d'esprit.
Oui, un état d'esprit mental, c'est-à-dire que là, par exemple, le travail qu'on a fait avec les deux comédiens Yam Abbas et Sarah Adler, et aussi avec les deux musiciens Sonia Wieder-Atherton et Edna Stern, c'est un travail en commune. C'est-à-dire, il y a le texte, après il y a l'interprétation. Comme je travaillais avec Jean Moreau, j'adorais l'aspect cérémonial, c'est-à-dire Jean Moreau, elle a noté tous les textes. Après, chez elle, c'était plein. Elle a lu des livres qui touchent la même époque historique, sur la guerre d'un empire romain qui a écrasé Jérusalem il y a plus que 2000 ans. C'est-à-dire qu'elle était envie d'inspirer des sources extérieures. Et on avait de grands dialogues. C'est le cinéaste, l'architecte, le maître en scène de théâtre, il est obligé de garder une structure. C'est pas des improvisations. Moi, j'aime pas le terme improvisation, mais il faut être nourri par des sources variées.
Nous sommes sortis de chez nous vers 19h30. Le garde du corps nous attendait sur le palier. C'était un samedi soir et nous en avions pour un bon quart d'heure de trajet. Les organisateurs avaient demandé à Yitzhak d'être là à 20h. Et mon mari était toujours ponctuel. Nous sommes montés dans la Cadillac blindée. Yitzhak n'aimait pas cette voiture. Il l'utilisait le moins possible. Il disait qu'elle était lourde et n'avait pas de reprise. Les services de sécurité avaient insisté pour la lui commander. Et il avait fini par accepter. Mais la presse avait fait toute une histoire en suggérant qu'il dilapidait les deniers publics. Nous avons commencé à rouler. Les rues étaient calmes. La circulation reprenait lentement. C'était une fin de Shabbat. Yoram, le garde du corps, s'est installé à l'avant, à côté du chauffeur. Yitzhak et moi étions à l'arrière. Une deuxième voiture nous suivait, avec deux autres gardes du corps. C'était l'escorte ordinaire d'Yitzhak. En chemin, Yoram s'est retourné vers Yitzhak pour le prévenir que les services de sécurité craignaient un attentat suicide palestinien pendant le rassemblement. Ces mots m'ont fait frissonner. J'ai essayé de ne pas le montrer. Ce type d'alerte faisait partie de notre vie quotidienne. Dans ce genre de cas, je n'exprime pas mon angoisse, mais elle reste tapie en moi, tout au fond. Yitzhak n'a pas bronché. Ce qui l'inquiétait, c'était le nombre de manifestants qui viendraient au rassemblement. Et moi, je partageais son inquiétude. J'avais hâte d'arriver.
Ce qu'on entend là, c'est donc votre spectacle Yitzhak Rabin, chronique d'une mort annoncée, qui a fait l'objet, comme vous le disiez, d'une captation par les fictions de France Culture, que d'ailleurs on peut retrouver sur le site et qu'on peut écouter en intégralité. Il y a un texte au départ de ce spectacle, ce sont les mémoires de Léa Rabin, qui était la femme de l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin. À quoi ressemble-t-il ce texte, Amos Gitaï?
C'est-à-dire Léa Rabin, c'était un couple qui la relation était très forte. Rabin était un homme plutôt timide, et je crois que c'est l'audace de cette femme qui l'a fait première ministre. C'est pas un hasard qu'elle est morte pas très longtemps après que lui l'ait assassiné. Elle est morte de chagrin. Alors, elle raconte dans ses mémoires, ce jour-là d'assassinat de Rabin, elle raconte que la veille, et c'était la veille de Shabbat, vendredi soir. Et ils sont arrivés à la maison. Il y avait des manifestants de droite qui criaient qu'elle, c'est le pute de Mussolini. Elle voulait pendre avec lui. C'est-à-dire toute cette violence qui commençait par une violence verbale finit par un assassinat. Et je trouve que c'est important de parler de celui-là parce que aujourd'hui, pas seulement au Moyen-Orient, mais aussi au Moyen-Orient, ça commence aussi en Amérique. ça commence par une violence verbale, une sorte de, on oublie tous les références, quelques retenues de paroles, et ça peut finir par un assassinat. Et c'est le cas de Rabin, c'est-à-dire la droite, les lobbies très forts des colons, ils ont appelé Rabin et Pérez d'un texte écrit qui fait partie des textes sataniques. D'ailleurs, pas très loin des choses qu'on a attendues dernièrement dans les grandes conventions républicaines sur Hillary Clinton. Et c'est, il y a un danger. C'est-à-dire, et je crois qu'on a fait ce spectacle pour parler de Rabin, que je crois qu'il était un homme intègre, qui essayait sincèrement d'avancer la cause de la paix. Mais on parle aussi d'une façon très générale. Alors, Léa Rabin, pour revenir à votre question, nous raconte cette expérience et comment ils sont partis vers les manifs. Et comme Rabin était très heureux qu'il y avait des dizaines de milliers de personnes qui déplaçaient pour soutenir le projet de réconciliation israélo-palestinien. Mais à la fin, on sait bien que lui, il était tué et le processus de paix décapité.
C'était le 4 novembre 1995 à Tel Aviv. Vous, où étiez-vous ce jour-là à Mosquitaï?
Moi, j'étais dans cette journée-là, j'étais à Haïfa parce que ma mère vient d'être renversée par une voiture. Et d'ailleurs, ma mère, elle a connu, ma grand-mère, elle était amie de la mère de Rabin. Dans cette époque-là, les petites communautés israéliennes, avant la création de l'État d'Israël, il y avait peut-être 50 ou 60 000 personnes seulement. Chacun, elle connaît les autres. Et alors, elle était renversée. On était là pour essayer de l'aider de récupérer la mémoire. Mais à 10 heures du soir, il y avait le breaking news, un flash de news disant que de grandes manifestations, et Rabin était touché par 3 balles et finalement mort.
Votre film, il est sorti 20 ans après, en 2015. Bon, la pièce arrive cette année. Il fallait autant de temps pour vous, pour en faire quelque chose à Mosquitaï? C'était le temps de la réflexion, de la digestion de cet événement-là?
Des fois, j'ai fait des films dans des délais très brefs. Par exemple, mon film Kippour, qui était fait 27 ans après la guerre. C'est la guerre de Kippour 73. Et Kippour était présenté à Cannes dans l'année 2000. Parce que ça a pris beaucoup de temps d'articuler comment je peux faire ce travail sur la mémoire de mon propre histoire, comme j'étais dans un hélicoptère descendu par les Syriens. Et je crois que les nécessités, je peux dire, civiles de faire un film sur l'assassinat de Rabin étaient devenues plus évidentes, plus urgentes, en voyant les démarches qui prennent le pouvoir actuel en Israël. Alors, comme quelqu'un qui aime ce pays, je suis inquiète. Et je crois que le film est une sorte de geste civil vis-à-vis de cette inquiétude.
Tous les jours, on demande à notre invité d'apporter un son ou une musique qui lui fait penser à l'été. Et vous, à Mosquitaï, vous avez choisi ça. Mosquitaï, qu'est-ce qui vous fait penser à l'été là-dedans et qu'est-ce que c'est surtout?
D'abord, j'adore Barbara Hendricks. J'ai fait un film avec elle, avec Juliette Binoche. D'ailleurs, petit rôle de Jeanne Moreau aussi dans l'époque. Mais Barbara, elle a chanté pour moi le chant de la terre de Gustav Mahler. J'adore la façon qu'elle fait Barrianos Brasileiros de Villa Lobos. Et il y a une sorte de légèreté comme ça qu'on promène, on regarde les arbres. l'ombre de l'été. Ça me rappelle mon Monte Carmel où j'étais grandi. Et j'aime beaucoup la performance de Barbara Hendricks dans cette œuvre.
C'est assez triste en même temps.
C'est triste, c'est tendre, je peux dire.
Amos Gitaï, votre spectacle à Avignon n'a joué qu'une fois, c'était vraiment une vraie performance. Est-ce que vous pensez qu'il rejouera quelque part ailleurs?
Écoute, j'ai arrivé assez tard pour voir Olivier Py. Je dois dire que j'ai pris beaucoup de plaisir de son démarche et aussi l'équipe d'Avignon. Le Lincoln Center, il a vu le spectacle. Le spectacle va être invité à New York dans le Lincoln Center dans l'année prochaine. Et on est en train de discuter avec Bouffe du Nord de monter ça à Paris. Et j'espère aussi montrer ça à Tel Aviv et à Ramallah, parce qu'on parle de cette région.
Sur la scène, il n'y avait que des femmes, comédiennes et musiciennes. Vous l'avez d'ailleurs annoncé très, très rapidement dans votre texte de présentation. En quoi c'était important pour vous, Amos Gitaï, pour porter ce récit-là?
Parce que comme le film « Les derniers jours de Rabin » était c'est un très grand... dire film presque symphonique parce qu'il y a 70 comédiens israéliens très bon niveau de understatement de performance fabuleux et je pensais que si je vais faire un autre médium, c'est-à-dire le théâtre, il faut que je fasse autre chose, pas une adaptation de film sur les formes théâtrales. Alors je pensais de effectivement être inspiré par cet texte de Léa Rabin et des textes historiques. Et comme Léa Rabin, c'est une femme, je pensais que c'est une bonne démarche, qu'on va avoir des femmes qui regardent cette sorte de violence. L'assassin, c'est un homme. L'assassinée, c'est un homme. On va regarder cet événement par un point de vue féminin, à la fois verbal, par Iyam Abbas et Sarah Adler, et aussi de certaines choses qu'on ne peut pas exprimer par les mots, mais qui est très bien exprimé par les cellos, par Sonia Widerton et le piano par Edna Stern.
Un grand merci à vous, Amos Gitaï. On peut toujours entendre ce spectacle qui a fait l'objet d'une captation par les fictions de France Culture qu'on mettra sur notre site. Et puis on peut aussi voir l'exposition à la collection Lambert à Avignon. C'est jusqu'au 3 novembre. Et le spectacle La guerre des fils de lumière contre les fils des ténèbres, un très beau titre, apparu chez Épicentre Film. Alors la musique marche, je crois. Feynman est au platine dans le studio. Feynman compose de l'électro, son label s'appelle Fake Music. Il interprète aujourd'hui son titre R. On vous écoute. Feynman en direct dans le studio. Merci beaucoup à lui. La Grande Table, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve demain à 12h45 pour une première partie autour d'Alan Turing. Puis nous tirerons le portrait du cinéaste et acteur Jacques Nollot. Un grand merci à toute l'équipe. Comme on est très très en retard, je ne signe pas tous les noms, mais je pense bien à eux.